terminé, on va reprendre les tranchées.
Bonjour, vous êtes sur Radio Capucin 94.fm en compagnie de
Anthony,
Clavina,
Arabia
et Monsieur Dobar. Alors aujourd'hui, on va modifier un petit peu les habitudes de Radio Capucin, c'est-à-dire qu'on va se retrouver un peu comme en cours, c'est le prof qui va surtout parler, et on va évoquer quelque chose que nous avons vécu il y a quelques jours, quelque chose qui était, je crois, très important dans le cadre de l'échange franco-allemand avec Stuttgart Vereinen. Nous nous sommes rendus à Verdun, sur les lieux de mémoire de la guerre de 14, puisque nous avions prévu pour ces 20 ans de jumelage de faire quelque chose d'un peu extraordinaire et d'essayer de montrer comment, à partir de deux peuples qui étaient ennemis pendant de longues générations, on a pu devenir des amis. Alors, quel était le meilleur cadre pour cela? Eh bien, c'était d'aller sur un haut lieu de mémoire de la guerre de 14. Et nous avons été aidés en cela par le Souvenir français. Alors, le Souvenir français, c'est une association à l'échelle nationale, mais qui a des représentations dans plusieurs villes du département. Par exemple, pour la Seine-et-Marne, il y a 20 comités. Et nous devons remercier Monsieur Tanazac et son épouse, Monsieur Tanazac étant le président du Souvenir français de Melun-Val-de-Seine, pour son aide financière, parce qu'ils nous ont apporté une aide vraiment importante, de manière à ce que nous puissions, avec les élèves, nous rendre sur ces lieux de mémoire. Alors ça fait partie des attributions du Souvenir français que d'aider les classes à aller évoquer sur place ce qui s'est passé. Et j'aimerais bien maintenant, avec vous, chers élèves, voir un petit peu ce qui vous a le plus marqué pendant ce déplacement. Qu'est-ce qui était pour vous le plus important? On commence par toi, Anthony.
Bah, pour moi, c'était beaucoup l'ossuaire et le village de Fleury.
Alors, l'ossuaire de Douaumont, oui, et le village de Fleury. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui était marquant?
Bah, l'ossuaire, c'est tous les soldats qui sont morts. L'ossuaire, plutôt. Tous les soldats qui sont morts pendant la guerre, quoi.
Oui, alors ceux qui sont morts effectivement dans la région de Verdun, qu'on n'a pas pu identifier, dont on a malheureusement retrouvé qu'une parcelle du squelette ou du corps, et qu'on a déposé là, oui, d'accord. Pourquoi ça t'a impressionné, ça?
Bah, il y en avait quand même pas mal.
Oui, il y en avait énormément, c'est clair. Ah, oui. Et le village de Fleury, tu peux nous dire un petit peu ce que ça représente, le village de Fleury?
Bah, c'est un village détruit où il y a le terrain, il est un peu en zigzag, il est bossu de partout à cause des obus, etc.
Ouais.
Et c'est un peu ça qui est marquant.
Oui, donc c'est ce qu'on appelle un village martyr, un village qui maintenant serait, qu'on pourrait aussi qualifier de village fantôme, puisqu'il n'y a plus une seule maison. Il y avait avant la guerre 422 habitants, et puis le village a été entièrement détruit. Il fait partie de ces 9 villages autour de Verdun qui ont été totalement détruits. Alors, ils ont tous aujourd'hui encore un maire. Même s'ils n'ont plus d'habitants, ce maire est désigné tout simplement par le préfet du département. Voilà. Et toi, Clavina?
C'était où il y avait plein de tombes.
Oui. Donc, devant Douaumont, tu entends. Oui.
C'était marquant parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes. Enfin, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant que ça. Et en fait, il y en avait plein. Et c'était assez... C'était triste. Parce qu'il y en a qui sont morts pour nous, à peu près. Enfin, pour qu'on soit... Voilà, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer.
Oui. Pour qu'on puisse vivre libre,
voilà.
Aujourd'hui.
Oui.
Oui.
Ah, oui. Et grâce à ça, voilà, qu'on peut vivre libre. Et c'était assez, assez marquant.
Oui. Alors, il faut savoir qu'effectivement, ces grandes nécropoles, on appelle ça une nécropole, hein, ça veut dire que ce sont des cimetières militaires dans lesquels on a déposé les corps après la guerre, bien sûr. Alors, les corps qu'on a pu identifier, parce que tous n'ont pas pu être identifiés. Je vous ai expliqué aussi sur place que quelquefois, on enterrait les morts quand on le pouvait, hein. Et qu'ensuite, les obus tombaient sur les sépultures, ce qui fait que, malheureusement, les restes des personnes étaient déchiquetés et on n'arrivait plus à les identifier. Donc, ce que l'on retrouvait, on le mettait dans l'ossuaire. En revanche, lorsqu'on avait la possibilité d'identifier jusqu'à la fin la dépouille mortelle, alors la personne était mise dans un carré militaire comme ça, ou quelquefois, si la famille en faisait la demande après la guerre, était reprise par la famille pour être enterrée avec les siens, mais tout n'était pas toujours facile. Et puis il y a eu aussi, alors on trouve ça parfois dans la littérature, un livre qui a été primé il y a peu de temps, qui s'appelle, si je ne m'abuse, « On se reverra là-haut », qui explique un petit peu tous les déboires des familles et tous les tristes moments qu'elles ont pu vivre en tentant de récupérer le corps d'un défunt qui était de leur famille et qui est tombé à la guerre. Et pour toi, Rabia, alors, qu'est-ce qui a été le plus marquant ?
Moi, c'était comme Anthony Lossuaire, parce que et bah, malgré que je trouve ça, je sais pas si c'est remarquable ou impressionnant, que malgré que ils ont pas su vraiment à qui étaient ces eaux là et bah ils ont quand même mis une place pour dire que malgré ça ils ont quand même participé à la guerre.
Oui, alors ça a été une volonté à la fin de la guerre, ça a été une volonté du maréchal Pétain, qui a été une des chevilles ouvrières des combats, et notamment qui a pu faire cesser les mutineries de ces soldats qui ne voulaient plus combattre, et de Mgr Ginesti de rassembler en un lieu solennel et aussi en un lieu de recueillement tous les ossements de ces soldats qu'on a trouvés disséminés à travers les différents champs de bataille. Et alors ensuite, nous avons visité aussi la citadelle dans le centre. Comment est-ce que vous avez trouvé cette visite ? Vous savez, avec les petits wagons sur lesquels nous étions. Est-ce que ça vous a impressionné ? Comment est-ce que vous l'avez ressenti ?
Oh, c'était trop bien, monsieur. Parce qu'en fait, on ressentait déjà le fait qu'il faisait super froid. Enfin, pas super froid, mais
il faisait 12 degrés.
Voilà. Mais quand même, c'était froid. Et il faisait froid, on pouvait ressentir, mais genre un minuscule petit peu, ce qu'ils pouvaient ressentir eux,
oui,
la guerre. Et le fait que, bah, déjà que ce soit dans différentes langues, parce qu'on avait entendu que derrière les Allemands, bah, c'était en allemand pour eux, pour qu'ils comprennent, bah, c'était bien. Et on voyait bien, en fait, c'était bien décrit, surtout le fait quand ils ont raconté l'histoire des 6 ou 5.
Ça dépend ce qu'ils viennent dire. Les 8 cercueils, ah, oui, pour choisir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi, là ? Tu te souviens ?
Ils avaient choisi. Ils avaient choisi le 5e, je crois.
Oui, alors, non, c'est pas le 5e qui a été choisi, c'est le 6e. Ah. Mais que choisissait-on ? Est-ce que...
Celui qu'on allait mettre à Paris l'arc.
Sous l'arc de triomphe, voilà. C'était le choix du... soldat inconnu qui repose depuis lors sous l'Arc de Triomphe à Paris. Alors, est-ce que vous vous souvenez de certains détails concernant ce soldat inconnu ? Alors, la première condition, c'était bien sûr que, même s'il était inconnu, on soit sûr que ce soit un soldat français, puisqu'on allait le mettre sous l'Arc de Triomphe en France. Ensuite, il fallait qu'il appartienne à... qu'il soit tombé à un endroit différent des autres sur les différents champs de bataille. Et puis, ils étaient au total 9 au départ, mais on ne voit dans la reconstitution que 8 cercueils, parce que ils ont in extremis, ça veut dire à la dernière minute quasiment, pu identifier l'un des cercueils qui était retenu. On a fini par retrouver son nom, donc il ne pouvait plus concourir, entre guillemets, pour reposer sous l'Arc de Triomphe à Paris. Donc, et vous vous souvenez, c'est une personnalité qui a choisi ce cercueil, ou bien est-ce que ça vous a marqué ?
Je m'en souviens pas trop.
Non, bah c'est un simple soldat à qui on a demandé de choisir d'aller déposer des fleurs qui avaient été prises sur les champs de bataille, d'aller déposer des fleurs sur l'un des cercueils. Et donc lui a fait un calcul par rapport à son unité. Il a additionné les chiffres qui composaient le numéro de son unité et a déposé les fleurs récupérées sur le champ de bataille sur l'un des cercueils qui était le 6e. Bien. Eh bien, je crois que nous arrivons à la fin de notre évocation. Merci et à une prochaine fois.
Merci.
vois-tu là-bas dans les Flandres? Je vois tout un pays en cendres, la reine et le roi sans valeur. Comme d'or du clocher amiénois, que vois-tu qui te désespère? Je vois la Vierge de Brivière sur son Jésus crispé ses doigts. Coq d'or du clocher de Soissons, que vois-tu dans nos hautes plaines? Je vois des hordes inhumaines ramper à travers nos moissons. Coq d'or du clocher de Senlis, vois-tu Reims et sa basilique? Je vois flamber la ville antique de Jeanne d'Arc et de Clovis. Coq d'or, prenez vite l'essor, qu'attendez-vous là dans l'espace? L'heure proche où l'aigle rapace épuisé offrira demi-mort au cerveau des coqs.
Bonjour et bienvenue sur Radio Capucin 94.5 FM. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de
Béatrice,
Lina
et Monsieur Dobard.
Et moi-même, Marie. Donc, on va vous parler de notre sortie à Verdun à l'occasion des 20 ans du jumelage qu'on a fait du coup avec nos correspondants allemands.
Tout à fait. Alors, certains de vos camarades ont déjà, à plusieurs reprises en cours ou à d'autres moments, évoqué ce voyage. Maintenant, j'aimerais avoir vos impressions aussi à vous, avant que nous n'entrions peut-être un peu plus dans les détails. Alors, on va peut-être commencer par Lina. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans ce déplacement?
D'abord, il y a eu le cimetière d'Hautmont, parce que je ne pensais pas qu'il y avait aussi de personnes qui étaient mortes pour la guerre, enfin autant de personnes qui étaient mortes pour la guerre, et de toute religion, que ce soit la religion musulmane ou catholique ou la religion juive, parce qu'il y avait toutes les tombes. Il y avait un carré qui était fait pour les musulmans. Ils n'ont pas été aussi dirigés de la même façon. Ça a été respecté, et ça prouve qu'on les respecte beaucoup, ces personnes. Et aussi, j'ai aimé, quand il y avait les ossuaires, l'ossuaire, parce que en fait, ça prouve qu'on n'a pas, délaissé ces personnes, on a gardé quand même une place pour eux, et qu'on pense toujours à eux, et que nous, on peut aller les voir, qu'on peut voir à quoi ressemblaient toutes les personnes qui sont mortes pour la guerre.
Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, c'est quelque chose que l'on ressent à chaque fois lorsqu'on est dans un carré militaire, dans un cimetière militaire. Il y a un parallèle que l'on peut faire avec une sortie que l'on avait faite précédemment, tu te souviens, quand on était allé à Meaux. Après, on est allé visiter un cimetière. Et je me souviens que les élèves participants avaient été assez émus par le fait que... Alors, comme c'était un tout petit carré militaire, on n'avait pas fait... une partie du carré militaire spécialement pour les musulmans, etc. Mais on avait mis côte à côte une sépulture d'un musulman, une sépulture d'un catholique et une sépulture d'un juif. Ce qui prouve bien que leur but à ces soldats, c'était de se battre pour la paix, pour conserver la paix. Et au-delà des religions, comme quoi on respecte les religions de chacun, mais on a tous un idéal commun qui est la paix.
C'est vraiment voilà.
Et toi, Béatrice, qu'en as-tu pensé?
Moi, je pense que tout ce qu'on a vu là-bas, ça a été impressionnant, parce que dans tous les endroits où on est allé, on voyait qu'il y avait ça apportait beaucoup d'importance à la guerre. Enfin, on voyait que partout où on allait, on voyait des choses qui se rapportaient à la guerre. Après, ce qui m'a plus marqué, c'était le cimetière, parce que il y avait vraiment beaucoup de tombes, et c'est ce qui montrait la grandiosité. Ce que ça montrait. Les ampleurs que ça a pris, la guerre, ça a fait quand même beaucoup de morts, vraiment beaucoup. Enfin, c'est quand on voit le cimetière qu'on s'en rend compte. Parce que moi, personnellement, je savais que c'était grand, mais quand j'ai vu le cimetière, ça m'a impressionné encore plus. Et après, voilà, quoi, j'ai trouvé ça impressionnant.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que quand on voit le cimetière, on s'aperçoit que c'est énorme le nombre de soldats qui sont restés de toutes parts sur le terrain. Mais il ne faut pas oublier que Douaumont n'est qu'une infime partie de tous ceux qui ont malheureusement perdu la vie à ce moment-là, sous quelque uniforme que ce soit. Parce que si on va un peu plus loin, il va y avoir les carrés militaires allemands, les carrés militaires anglais, etc. En une journée, on n'a pas le temps de tout voir. Mais si un jour vous avez l'occasion de retourner vers les champs de bataille avec vos parents, il ne faut pas aller très loin, vous l'avez vu, il suffit d'aller à Meaux, puis un peu au-delà. Et là, en pleine campagne, vous trouverez bon nombre de carrés militaires. Ici, en Seine-et-Marne, vous en trouverez un, par exemple, à Solers, le carré militaire allemand, et vous verrez que, eh bien, effectivement, tout cela, ce sont des personnes qui, à ce moment-là, ont perdu la vie, ont vu leur destin s'arrêter. Moi, je pense toujours à mon grand-oncle qui est mort à 19 ans et demi au chemin des Dames. Hein. À 19 ans et demi, qu'est-ce qu'il avait vu de la vie? Il n'avait rien vu, et pourtant, la guerre l'a tué en mois d'avril 1917. Imaginez, pour vous, 19 ans et demi, c'est dans très peu d'années. Vous n'avez pratiquement rien vécu et vous seriez déjà plus là. Marie, à toi.
Quand on est en classe, en fait, et qu'on parle de la guerre et particulièrement de Verdun, on ne se rend pas forcément compte parce que déjà... on s'imagine pas, mais quand on s'est rendu à Fleury, c'est ça, je crois, qui a été le plus impressionnant. Ouais. Quand on a vu le village rasé, on a vu, y avait les arbres, en fait, du coup, c'était un peu difficile de s'imaginer. Mais quand je me suis baladée, j'étais avec une autre personne et je l'avais jamais vu comme ça parce que ça a dû, pour certaines personnes, rendre compte à certaines personnes que, à quel point ça avait été une catastrophe et qu'il ne fallait pas reproduire ça.
Est-ce que vous en avez reparlé après chez vous en rentrant? Est-ce que ça a permis à vos familles d'évoquer un petit peu le passé? Parce que quelquefois, on ne sait pas ce que pour vous, vos arrière-grands-parents ont fait, s'ils ont participé à la guerre ou pas. Mmh. Non? Vous n'avez pas reparlé de tout cela avec vos familles? Bien, alors... Autre question, est-ce que pour vous, c'est un peu pour rebondir sur ce que vient de dire Marie, est-ce qu'il est important, lorsqu'on est élève et qu'on apprend tout cela en classe, d'aller sur les champs de bataille pour voir un petit peu, visiter ces cimetières? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus concret?
Moi, je dis que oui, parce que déjà avant, en Allemagne, par exemple, on a pu voir que les professeurs, ils influençaient les élèves. Enfin, ils leur... Comment dire? Je
sais pas comment dire. Dans le film qu'on a vu.
Oui. Ah oui, d'accord. Il faut citer le film et le reclasser dans son contexte, c'est-à-dire que le film que nous avons vu en préparation, c'est « À l'Ouest, rien de nouveau ». Donc c'est un film qui a été fait après la Première Guerre mondiale et qui était destiné à faire comprendre aux gens combien la guerre était horrible. Donc effectivement, que ce soit en Allemagne ou en France à l'époque, on se préparait quelque part à retourner faire la guerre. Si un jour vous faites des études plus prolongées ou même pour votre connaissance personnelle, vous lisez des ouvrages ou ne serait-ce que des journaux de l'époque ou d'une époque qui était entre la guerre de 1870-71 et 1914, eh bien vous verrez que dans la presse, on se préparait à la prochaine guerre, c'est-à-dire qu'il fallait récupérer l'Alsace-Lorraine, ou bien il fallait reprendre son honneur pris par le méchant allemand, ou bien et de l'autre côté, les méchants français, etc. Donc, on préparait les gens à retourner à la guerre. Et c'est effectivement ce qu'il y a dans le film « À l'Ouest, rien de nouveau » qui est destiné à nous faire prendre conscience qu'on peut, le cas échéant, être manipulé. Oui, oui. D'autres réactions?
Moi, je pense que oui, parce qu'en classe, on entend beaucoup parler de la guerre, surtout en classe de 3e. Tout le temps, on entend parler de la guerre, parce qu'il y a la Première Guerre, après il y a la Seconde Guerre, et il y a toutes les guerres qui sont passées... dans cette époque, mais en fait on s'en rend pas compte parce que vu à force on entend beaucoup parler de la guerre, on s'en rend pas compte de l'horribilité, on s'en rend un peu mais pas trop.
Oui. Oui, parce qu'il y a une différence entre voir les choses à la télé, puisque vous êtes dans une génération où l'écran, l'image est présente au quotidien dans votre vie, par rapport au fait d'aller sur le champ de bataille. Là, on voit les tombes et on se dit qu'en dessous, il y a effectivement quelqu'un. C'est pas un film, c'est la vraie vie, entre guillemets. Hein. Et ça, il faut effectivement en prendre conscience.
C'est vrai ce qu'elle a dit, Béatrice. En fait, quand on est en cours, monsieur, on ne se rend pas compte parce qu'en fait, on n'est pas sur les lieux et on n'a pas vu de, enfin, vraiment de nous et on n'a pas constaté. Donc, c'est pour ça que je comprends ce qu'a dit Béatrice.
Oui, et c'est le but, justement, du souvenir français, de permettre aux jeunes générations comme vous, qui, par chance, et il faut s'en féliciter, n'ont jamais connu la guerre, de pouvoir se rendre sur ces lieux de mémoire pour essayer d'appréhender un tout petit peu, parce que nous, quand on voit les choses, ce n'est rien par rapport à ceux qui les ont vécues, mais d'appréhender combien leur quotidien pouvait être horrible en se disant, d'une seconde à l'autre, je peux prendre un obus sur la tête et ça peut être terminé. Voilà. Donc, l'idée de se déplacer sur ces champs de bataille, c'est de vous faire comprendre l'histoire, mais aussi de comprendre que c'est à nous de vrai pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Et donc ça fait partie des buts du souvenir français, faire comprendre aux jeunes générations qu'il faut œuvrer pour éviter les guerres.
Les corbeaux devant la main française.